Manuel Valls est toujours sur le territoire, une journée largement consacrée aux négociations politiques. Mais ce matin, le ministre des Outre-mer a pris le temps de rencontrer la jeunesse calédonienne. Après l'adoption du budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie au Congrès, les différents groupes politiques justifient leur choix par voie de communiqué. Le collège de Vao à l'île des Pins vandalisé le week-end dernier, le faré de la cour centrale a été incendié, des portes fracturées et des salles ont été visitées. En attendant de trouver des solutions, l'établissement a été fermé par l'ADEC. La Fédération des professionnels libéraux de santé alerte sur l'effondrement du système de santé calédonien. Selon une dernière étude, 21% des professionnels de santé souhaitent quitter le territoire. Le CTOS annonce une délégation réduite pour les mini-jeux du Pacifique en raison de difficultés financières. Les cagous seront représentés dans 6 disciplines sur 11. Bonsoir à tous. Nouvelle journée de négociation pour le ministre des Outre-mer. Les discussions ont débuté samedi matin et Manuel Valls continue à s'entretenir avec les délégations des groupes politiques. Jean-François Bodin.
Ce matin, les négociations ont débuté à 10h30 par une séance plénière de plus de 2 heures qui a été consacrée au document que Manuel Valls a remis hier aux groupes politiques. Cet après-midi, le ministre des Outre-mer a repris les séquences bilatérales en échangeant d'abord avec l'UNI, puis depuis 17h avec l'UCFLNKS et l'entretien se poursuit actuellement. Dans la soirée, il doit encore recevoir les élus de l'éveil océanien, puis la délégation de Calédonie Ensemble. Demain matin, c'est la délégation du Rassemblement, puis celle des loyalistes qui seront reçus par Manuel Valls. Aucune information ne filtre sur ces échanges et les participations ne se livrent à aucune déclaration. On sait seulement que le document qui a été remis hier par le ministre est un projet d'accord sur l'avenir institutionnel. On sait aussi que Manuel Valls doit quitter la Nouvelle-Calédonie demain à 22h et qu'il espère aboutir à une base d'accord avant son départ. On essaie de construire un accord, a-t-il déclaré, en affirmant que ce n'est pas facile, mais à plusieurs reprises, il a affirmé qu'un accord est indispensable et il a appelé les responsables politiques à faire un pas décisif vers un compromis global. Les négociations se poursuivent donc en ce moment et elles doivent reprendre demain matin.
Mais ce matin, Manuel Valls a pris le temps de rencontrer la jeunesse calédonienne. Le ministre des Outre-mer a visité le lycée La Pérouse, où il a notamment échangé avec une classe de terminale. C'est avec l'hymne calédonien chanté main dans la main par les lycéens que Manuel Valls a été accueilli. Un moment de partage suivi de la traditionnelle coutume au cours de laquelle le ministre a rappelé que le destin commun était possible. Nous tentons de rétablir le dialogue afin de préparer l'avenir pour vous, a-t-il notamment déclaré. Et c'est pour ce vivre ensemble qu'il faut parvenir à un accord, explique Manuel Valls.
Tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire trouver un accord pour instaurer définitivement la paix civile et pour préparer l'avenir de la Calédonie, c'est pour la jeunesse. Ce sont des jeunes qui viennent de connaître la violence. Eh bien, ils cherchent à surmonter ces différences et à dépasser tout esprit de revanche, de haine ou de violence pour construire une société commune. C'est pas facile, faut pas être naïf, mais c'est ce message-là que je vais retransmettre aux élus aussi. Chacun, maintenant, doit prendre toutes ses responsabilités et être conséquent. Moi, je souhaite un accord. Pas pour moi. Je souhaite un accord pour la Nouvelle-Calédonie et pour ces jeunes. Chacun sera comptable devant la population calédonienne. Donc, faisons l'effort collectif, quelles que soient nos opinions, et le gouvernement s'y implique, vous le voyez avec ma présence, pour trouver cet accord.
Calice et Axel faisaient partie des lycéens sélectionnés pour cet échange avec le ministre des Outre-mer. Comme les autres, elles ont pu témoigner de leur vécu des émeutes de l'année dernière et ont parlé de l'avenir. Elles évoquent une rencontre enrichissante.
Sincèrement, en fait, ça crée un lien entre lui et nous. Et c'est aussi hyper important qu'ils sachent comment on a vécu ce qui s'est passé pendant les émeutes, qu'ils sachent qu'on est des humains et que, en fait, on transmet un message de « on est tous dans la même galère, on est tous d'ethnies différentes, etc. On a tous vécu des choses difficiles. » Et pourtant, en fait, on est là et on est tous ensemble en train de demander la même chose, en fait, d'être tous unis. Et c'est ça qui est super important. Et je pense qu'il a compris ce qu'on voulait lui dire et le message qu'on voulait transmettre.
J'ai vu qu'il était vraiment investi dans ce qu'il disait, qu'il voulait vraiment trouver une solution, qu'il voulait qu'on s'en sorte tous ensemble, main dans la main. Et j'espère qu'il va pouvoir réaliser ses beaux projets.
L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour la jeunesse a également été abordée avec Manuel Valls durant cet échange de près de 3 quarts d'heure. Le ministre qui, lors de son dernier séjour sur le territoire, avait déjà rencontré des jeunes du lycée Michel Rocard à Pointe-Bout et du GIEP de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, Manuel Valls va-t-il, comme il le souhaite, obtenir un compromis global d'ici mardi? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Suspense sur la situation de Marine Le Pen qui risque l'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Le jugement est attendu dans la soirée ou dans la nuit pour nous. Nous en parlerons demain matin en compagnie d'Alain Descombelles, le représentant local du Rassemblement National. Il sera en effet notre invité du matin demain à 7h30. Retour sur l'adoption compliquée du budget 2025, vendredi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, Yoann Le Courrieux revient sur son abstention lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Il veut exprimer les raisons de ses choix et rétablir la vérité sur ses votes, Jean-François Baudin.
Un long communiqué du maire de Dumbéa est élu à la province sud et au Congrès. Il veut ainsi répondre à ce qu'il appelle une campagne de désinformation orchestrée après son abstention lors du vote du budget de la Nouvelle-Calédonie. Yoann Le Courrieux tient d'abord à préciser qu'il a voté en faveur du budget de reversement et du budget de répartition. Il s'est abstenu en revanche sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie qui oriente les actions du gouvernement et du Congrès et il explique que cette décision repose sur plusieurs raisons qui mettent en lumière le manque de vision et de profondeur de ce document. Ce budget, que devront assumer celles et ceux qui l'ont voté, est bien loin d'être à la hauteur des défis qui nous attendent, écrit Yoann Le Courrieux. Et il ajoute que son abstention n'aurait pas conduit aux conséquences dramatiques que certains affirment. Le maire de Dumbéa dénonce la création d'une diversion et il affirme que ces votes sont bien des actes de responsabilité et de cohérence envers les Calédoniens. Fin de citation.
Sans surprise, les élus Génération NC de Dumbéa ne partagent pas les arguments de Yoann Le Courrieux. Ils écrivent dans un communiqué, et je cite, que Yoann Le Courrieux trahit les Dumbéens et fait le jeu des indépendantistes.
Les élus Génération NC de Dumbéa s'indignent que Yoann Le Courrieux affirme qu'il n'est pas grave de s'être abstenu lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle que ce budget intégrait les 120 milliards de francs du prêt accordé par l'État, un élément fondamental pour garantir la stabilité financière du territoire. C'est d'ailleurs pour cette raison, écrivent-ils, qu'il a été exceptionnellement voté avant les budgets de reversement et de répartition. Dans ces conditions, comment peut-on considérer que s'abstenir et ainsi voter dans le même sens que les indépendantistes et une partie de l'éveil océanien ne constitue pas une trahison envers les Calédoniens qui souffrent et résistent dignement à la crise actuelle, interrogent les élus de Génération NC. Ils affirment, et je cite toujours, que ce rapprochement avec les indépendantistes n'est pas sans nous rappeler les conditions de son élection à la tête de la mairie de Dumbéa à la suite de l'alliance de Georges Naturel et Robert Rowy lors des sénatoriales de 2023 ou aux négociations menées avec la CCAT face aux voisins vigilants lors des émeutes. Fin de citation.
Le groupe UCF-LNKS et nationaliste justifie quant à lui son vote contre le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, il parle d'un choix difficile et douloureux, mais qu'il assume pleinement car il honore l'exigence de vérité et de clarté que les indépendantistes doivent à ceux qui nous ont élus et que nous représentons. Le groupe UCF-LNKS affirme que le budget présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas responsable et qu'il ne contribuera que faiblement, si ce n'est pas du tout, à la relance économique. Il ajoute qu'il défend une autre voie, celle d'un modèle économique plus juste, fondé sur la solidarité et la souveraineté, pour construire un avenir digne et inclusif pour tous les Calédoniens. Fin de citation. Un établissement scolaire saccagé ce week-end. Le collège Saint-Joseph à l'île des Pins a subi plusieurs tentatives d'incendie et de vol. C'est samedi dernier, en fin d'après-midi, que les dégâts ont été constatés. Le phare de la cour centrale a été brûlé, deux portes fracturées et deux salles visitées. Du matériel a été volé, notamment un ordinateur. Les personnes en cause, toujours inconnues des services de gendarmerie, ont aussi tenté de mettre le feu à un autre bâtiment du collège, mais sans succès. En réaction, l'établissement a décidé de fermer ses portes aujourd'hui pour prendre le temps de rencontrer les familles, comme l'explique Manuel Van Erscott, le directeur de l'ADEC.
Ce matin, les parents ont tenu à faire des réunions, voilà, pour demander des explications, pour s'exprimer, en présence du directeur, de l'adjointe et de tout le corps enseignant des écoles primaires et du collège. Donc chacun peut prendre la parole, donner son ressenti et envisager des pistes pour que, évidemment, essayer que cela ne se reproduise plus. Et les mesures, eh bien, ce sera des discussions entre les enseignants et les élèves pour remettre en perspective comme nous le faisons souvent en éducation civique et morale.
Notez que les deux autres écoles situées à côté du collège de Vao ont aussi été fermées aujourd'hui, même si on n'ont pas été touchées par les vols et les incendies. Les cours reprendront normalement dès demain dans les trois établissements scolaires. Et toujours du côté des faits divers, un début d'incendie sur l'ancien site de la société Lefroy à Montravel. C'était ce matin, Charlotte Coulson.
Les pompiers de Nouméa sont intervenus rapidement pour éteindre les flammes dans les décombres de l'usine, déjà ravagée en mai 2024. Des individus ont pénétré dans les ruines du site pour allumer un feu de détritus. Les flammes se sont répandues sur une vingtaine de mètres carrés. Aux environs de 9h, le feu a pu être maîtrisé sans provoquer de gêne pour le quartier et notamment l'école primaire Gustave Mouchet où les enfants auraient pu être incommodés par les fumées si l'incendie avait pris de l'ampleur. Les pompiers de Nouméa ont mobilisé 6 véhicules ainsi qu'une vingtaine d'hommes pour procéder rapidement à l'extinction de ce début d'incendie dont l'origine malveillante ne fait aucun doute.
Et puis un homme toujours activement recherché à la fois. Hier, l'individu d'une vingtaine d'années s'est évadé, menotté de la gendarmerie de La Foix, alors qu'il avait été interpellé la veille à Canala par les forces de l'ordre. Il participait à une fête qui a dégénéré. Les gendarmes sont intervenus et ont subi des jets de pierre. C'est là qu'ils ont procédé à 5 interpellations. Après plusieurs heures de garde à vue, l'un d'entre eux, qui ne serait pas dangereux selon les forces de l'ordre, a donc réussi à échapper à la surveillance des gendarmes et à s'enfuir de la gendarmerie. De nombreux moyens ont été engagés pour le retrouver et les forces de l'ordre lancent donc un appel à témoins. Si vous avez la moindre information sur cet évadé à la fois, un homme d'une vingtaine d'années menotté et qui porte un t-shirt bleu, vous pouvez contacter la gendarmerie de la Foix au 44 87 50 44 87 50. Il est 17h58, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léana Colombo.
Et les professionnels de santé devant la presse ce matin, médecins, infirmières, dentistes, ambulanciers, opticiens, orthophonistes, kinés, sages-femmes, biologistes, tous étaient réunis pour une nouvelle fois tirer la sonnette d'alarme alors que le système de santé est au bord de l'effondrement, Jean-François.
En 2022, la FPLS, la Fédération des professionnels libéraux de santé, avait fait réaliser par l'Institut Quid Novi une étude afin de faire le point sur l'état de la santé en Nouvelle-Calédonie. Deux ans après, la Fédération a souhaité renouveler cette étude en y ajoutant cette fois-ci un volet spécifique pour évaluer l'impact des émeutes de mai 2024 sur les professionnels du secteur. Sur les 2498 professionnels de santé contactés, 579 ont répondu à cette enquête, ce qui représente un taux de participation de 23%. Et certains chiffres issus de cette étude sont extrêmement inquiétants pour le système de santé et donc pour l'ensemble des Calédoniens, des habitants de Nouvelle-Calédonie, souligne Patrice Gauthier, le président de la FPLS.
Un professionnel sur deux, globalement, 47%, a une volonté de partir. 85% des professionnels qui disent vouloir partir ont subi un traumatisme post-émeute modéré ou fort. Et 31% des professionnels restent sur la Calédonie parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement on déplore des gens qui sont partis, il y a des gens qui veulent partir et ils sont en nombre. Et surtout, on a une bombe à retardement parce que 31% des professionnels qui ont été interrogés restent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais qu'ils partiront dès qu'ils pourront. On ne pourra plus dire, nous n'avons pas l'information ou on n'en veut plus.
Les chiffres très inquiétants révèlent surtout un risque majeur pour la continuité des soins. Le système de santé ne tient plus que grâce à l'énergie de celles et ceux qui restent, expliquait ce matin certains professionnels de santé. On retrouve Patrice Gauthier.
On est dans une phase qui est pré-effondrement, c'est-à-dire que sans professionnel, il est clair que personne ne prendra en charge les soins. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire nous aujourd'hui, c'est de dire, on se reprend en main collectivement, on vous propose une méthode qui s'appelle la cellule de pilotage dans laquelle vous associez tout le monde.
Est-ce qu'il y a réellement urgence?
Ah oui, les opérations qui sont décalées du jour au lendemain à la clinique, ou à l'hôpital sont des exemples. Après, les gens dont on ne parle pas, ceux qui sont loin de structures, qui ne peuvent pas se déplacer parce que les déplacements sont aussi encore compliqués, ou qui ont perdu tout simplement les professionnels de santé à côté, ça, je dirais que... bon. Je ne voudrais pas dramatiser les situations, mais un peu, je meurs en silence, quoi. C'est exactement ce pour quoi on n'a pas été formé, c'est-à-dire accepter ce genre de choses. Et parce qu'on n'accepte pas, ben, on a fourni un travail qui a fini par maturer un peu plus longtemps que prévu, mais c'est le livre blanc.
Et ce livre blanc dont parlait à l'instant Patrice Gauthier a également été présenté ce matin. Il s'agit d'un très gros travail réalisé par l'ensemble des professionnels de santé, profession par profession, afin de présenter un état des lieux de chacune des disciplines et de proposer des solutions secteur par secteur. Le docteur Viviane Damien est médecin anatomopathologiste.
Un système de santé, c'est un système complexe qui a besoin de beaucoup d'acteurs, qui a besoin d'une agilité, qui a besoin de modernité et qui a besoin d'être soutenu. C'est difficile de tenir un système quand on est moins nombreux pour le porter. Il y a un mur qui s'est un petit peu agrandi, on va dire, entre le côté administratif ou les tutelles et le professionnel, et qui, lors des émeutes, a été majoré. On n'est pas entendu, chacun travaille en silo dans son coin, et il y a un besoin urgent de concertation et de travailler avec, parce qu'on est des partenaires et surtout pas des adversaires. Ce qui est important, c'est que chaque citoyen, chaque patient, chaque famille, chaque décideur puisse comprendre la réalité de ce terrain.
Des propos recueillis par Lionel Sabot. J'ajoute que ce sondage réalisé par l'Institut Quid Novi et le Livre Blanc ont vocation à être présentés dans les jours et les semaines qui viennent au plus grand nombre, afin qu'il y ait une prise de conscience globale de la crise que traverse le monde de la santé, qui est au bord de la désintégration, affirment les professionnels de santé.
Et depuis plusieurs mois déjà, en raison du manque d'effectifs infirmiers et médical, l'offre de soins au centre hospitalier du Nord doit être régulièrement réorganisée. Ainsi, pour la période du 31 mars au 30 avril, la direction du CHN indique qu'à Koumac, le service des urgences restera fermé, mais que les consultations externes rouvriront du lundi au vendredi sur rendez-vous. À Pointe-d'Imier, le service des urgences restera fermé. Les consultations externes seront assurées sur rendez-vous du lundi au vendredi. Enfin, à Koné, les urgences seront ouvertes 24 heures sur 24. Les soins externes, l'hôpital de jour pour les chimiothérapies ainsi que les consultations et la maternité resteront ouverts durant cette période.
RRB 18h03.
En bref, la Chambre territoriale des comptes s'intéresse à la montée du niveau de la mer et à l'érosion rapide de ses côtes en Nouvelle-Calédonie. Dans le rapport qu'elle vient de rendre public, elle signale que les efforts financiers pour lutter contre l'érosion sont insuffisants. Avec une moyenne de 233 millions de francs par an consacrés au sujet entre 2019 et 2023, la CTC souligne que ce financement est majoritairement consacré à la connaissance du phénomène par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, alors que les provinces Nord et Sud se concentre sur la construction d'infrastructures de protection et elle estime que le rôle des communes doit être mieux affirmé en matière d'urbanisme et de gestion des risques. La Calédonie dispose de 5900 km de côte dont 71% est exposé à l'érosion et au recul du trait de côte. Et puis de son côté, l'ISEE constate un timide regain d'activité mais souligne une situation toujours préoccupante dans les secteurs du nickel et du tourisme. La production et l'exportation du nickel sont en légère progression, tout comme le retour des croisiéristes sur le territoire. En revanche, les arrivées de touristes sont toujours peu nombreuses. L'ISEE annonce également qu'en février, 6000 personnes étaient toujours bénéficiaires du chômage total. Parallèlement, les prix à la consommation augmentent depuis le début de l'année, plus 2%. Les ménages les plus modestes sont particulièrement touchés par la hausse des prix des services de transport en commun, des cantines et garderies, de l'alimentation et du gaz. Quelle concentration de métaux dans les denrées alimentaires locales ? On le sait, les sols calédoniens sont fortement chargés en éléments métalliques. En 2017, le centre du nickel, le CNRTech, a financé l'étude Metallica Aliment, chargée de quantifier ces concentrations. Et l'étude a été restituée ce matin, Charlotte Couton.
Mais de quels métaux parle-t-on exactement ? Eh bien, il s'agit d'analyser la présence d'éléments métalliques strictement toxiques, comme le mercure ou le plomb, mais aussi celles de métaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement des organismes, mais qui, au-dessus d'un certain seuil, peuvent aussi être nocifs. On parle là du nickel, du chrome, du zinc ou encore du cuivre. L'étude a été menée pendant plus de 7 ans et les résultats sont relativement encourageants, selon Audrey Léopold. Elle est chercheure en agropédologie à l'Institut agronomique de Nouvelle-Calédonie, qui a en partie mené l'étude.
Je trouve en tant que scientifique les résultats particulièrement encourageants, notamment sur la partie métaux toxiques, puisque que ce soit sur les filières agricoles, végétales ou animales, aucun métal toxique n'a montré de dépassement, donc ce qui est quand même déjà pour moi un très bon point. Il faut savoir que sur les viandes, nous n'avons pas pu quantifier de nickel, c'est-à-dire que toutes les concentrations dans toutes les viandes et les œufs que l'on a pu mesurer eh bien, étaient inférieures en fait à la capacité de notre instrument à détecter cet élément. Et pour la partie végétale, effectivement, on a pu montrer dans certains cas, et notamment en ce qui concerne plutôt les légumes feuilles, quelques dépassements. Donc effectivement, un point potentiellement de vigilance à avoir sur certains types de denrées, et particulièrement en ce qui concerne donc les légumes feuilles.
Et ce sont les réglementations européennes qui ont été prises comme base de comparaison, puisque les normes calédoniennes n'existent pas.
Et notez que nous reviendrons sur cette étude de façon plus approfondie demain dans le magazine Citoyen, ce sera à midi. Aude Léopold, que vous venez d'entendre, sera sur le plateau, mais aussi Fabien Trottet, directeur du CNRT, et Charles Huillot, ingénieur agroalimentaire et manager de Foodlab. Notez maintenant ces deux informations, le prix des carburants. Tout d'abord, il continue d'augmenter au mois d'avril. À partir de ce soir minuit, le litre d'essence grimpe de 2,80 francs pour atteindre 167 francs. Le gasoil augmente quant à lui de 60 centimes. Le prix affiché dans les stations-service sera de 148,90 francs le litre. Et puis avis aux automobilistes, des travaux de réparation vont être effectués entre le col de la Pirogue et la tribu de Saint-Laurent à Païta sur la RT1. La circulation sera donc fortement perturbée du 1er au 4 avril entre 8h et 15h. Il est 18h07, seconde pause dans ce journal. Je vous dis à tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Les collégiens et lycéens sont plongés dans le monde numérique cette semaine. Le vice-rectorat et ses partenaires organisent de nombreux ateliers et conférences pour sensibiliser le jeune public aux métiers de formation liés à ce secteur d'activité, Charlotte.
Qu'est-ce que la cybersécurité ? Quelles sont les innovations en matière de robotique ? Comment fonctionne l'intelligence artificielle ? Le numérique, c'est un domaine vaste, regroupant de nombreuses pratiques qui, peut-être, peuvent inspirer des jeunes dans leur parcours d'orientation. Aujourd'hui, les élèves du collège Francis Carco à Dimbéa ont pu découvrir certains concepts informatiques à travers des ateliers ludiques et une présentation.
On a fait des activités, des transmissions de pensée. Ça consiste en fait, quand une personne choisit une image, il ne faut pas qu'elle dise à celui qui va transmettre la pensée.
Alors, est-ce que vous voyez votre image dans cette ligne ?
Oui.
Dans cette ligne-là ?
Non.
Et ensuite, dans celle-là en bas ?
Oui.
Du coup, ça fait 16. 16 plus 4, 20, 21. C'était celle-là que vous avez choisie ?
Oui, c'était ça.
En fait, c'est de la numération binaire. C'est la numération que les ordinateurs ils utilisent.
Oui, c'est intéressant parce que le monde de demain, il est informatique. Du coup, c'est intéressant d'avoir des connaissances sur tout ce qui est numérique, informatique.
L'atelier, c'était sur la semaine du numérique. En gros, il nous a expliqué ce qu'il y avait en métier du numérique, sur la cybersécurité. Je connaissais pas du tout. Je vais peut-être m'intéresser à ça, puis en faire mon métier.
Ça nous donne envie de faire quelque chose par rapport à tout ce qui est numérique, tout ce qui est robotique, jeux, tout ça. Et vraiment, il y en a que ça motive et c'est vraiment bien.
Près d'une quarantaine d'activités du même genre seront proposées pendant la semaine. Elles devraient toucher environ 1500 élèves et professionnels selon le vice-rectorat qui organise l'événement. Pour le directeur du collège de Coutiot, Riyad Sassi, c'est l'occasion de lutter contre la fracture numérique et de sensibiliser les élèves au métier du numérique.
On a des élèves qui se cherchent et notre métier, c'est de leur donner de l'ambition et de leur ouvrir les horizons.
Cette intervention-là, j'espère, elle permettra aux élèves de voir qu'il y a d'autres métiers qui les attendent et qu'il faudrait qu'ils s'engagent là-dedans s'ils ont la fibre numérique. Forcément, les élèves de Coutio, ce sont des élèves dont les familles sont un peu loin du numérique. La fracture numérique existe et surtout à Coutio, elle existe vraiment. Ça serait bien que l'école fasse le lien entre le monde du travail et le monde de la formation pour permettre à ces élèves-là d'avoir de l'ambition et d'avoir un avenir assuré s'ils sont dans l'informatique, voire d'autres métiers.
Et la semaine du numérique s'adresse aussi aux étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une conférence est proposée ce soir depuis 18h sur les formations et les métiers du secteur.
La fin du ramadan célébré aujourd'hui par la communauté musulmane du territoire. Une journée qui a débuté avec un moment de prière à la mosquée et au sein du consulat général d'Indonésie. S'en est suivi un repas partagé toujours au consulat où des dizaines de personnes étaient rassemblées. Un moment de communion important qui célèbre la fin d'un mois de jeûne.
Cet ramadan s'est bien passé. On a passé un mois de faire ramadan. On est fini aujourd'hui. On est bien content de retrouver toutes les familles, les copines, les amis. Voilà.
Nous sommes venus ici en famille parce que le matin, il y a donc la prière de l'Aïd. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le halal bihalal, ou une tradition spécial où chacun se pardonne, que ce soit la famille, les voisins, les collègues. C'est un pardon mutuel pour commencer un nouveau mois avec beaucoup de sincérité et beaucoup de pardon.
Tous les gens faire comme ça, rassembler nos communautés indonésiennes ici. Voilà, ça fait plaisir.
Le repas partagé par de nombreux croyants s'est donc déroulé au consulat d'Indonésie situé à l'orphelinat où chacun est venu accompagné d'un plat typique indonésien. Nous avons parlé de la préparation des mini-jeux du Pacifique ce midi dans notre Mac des Sports, mais le CTOS a déjà annoncé que la délégation calédonienne sera fortement réduite étant donné les difficultés financières qui touchent le territoire. 40% seulement du budget initial prévu qui a été alloué au monde sportif. Par conséquent, seulement 6 disciplines sur 11 seront représentées pour la délégation calédonienne. Christophe Dabin, le président du comité territorial olympique et sportif, était notre invité ce midi.
Je crois qu'il faut être réaliste et puis conscient de ce que la Nouvelle-Calédonie vit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est clair que la situation financière de Nouvelle-Calédonie est tellement, je veux dire, catastrophique que on pouvait pas s'attendre à partir avec une délégation normale. Et donc, mais par contre, pour nous, il était important que la Nouvelle-Calédonie soit présente. Et même si on n'avait pas eu d'aide financière, on aurait trouvé la solution pour que la Nouvelle-Calédonie soit présente avec deux, trois athlètes, mais au moins que la Nouvelle-Calédonie soit présente. Par rapport au budget qui était proposé, ben, ça tournait autour de 43 personnes au total pour la délégation. Et donc, chef de mission Marion Romagne et l'équipe du CTOS ont rencontré l'ensemble des disciplines qui étaient prévues pour aller au jeu. Et avec chacune discipline, on a fait le point. On a regardé, on s'est dit, ben, on peut pas amener une équipe complète pour chacune des disciplines. Donc, ben, ça sera 2, 3, 4, 5. Et donc, ben, chaque discipline a fait le choix de se dire, eh ben, est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller au jeu? Mini-jeu, ou est-ce que vaut mieux pas que j'aille faire une compétition dans les mois qui arrivent dans le Pacifique? Et donc, avec chacune des disciplines, les disciplines ont dit, ben, on y va. Je souligne, je veux dire, la conscience de nos dirigeants, la responsabilité qu'ils ont eue, parce que le choix était difficile, parce que je veux dire, on peut toujours après être critiqué par ses propres athlètes, mais le choix qui a été fait est un choix que dire, comment on fait, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est utile ou pas. Mais faut pas oublier une chose, c'est que les Jeux de Palau étaient une étape dans la préparation des Jeux de Tahiti. Donc, si on peut pas y aller là, il y aura d'autres compétitions de préparation qui vont se faire avant Tahiti. Et normalement, ceux qui vont à Palau, on devra avoir ces mêmes athlètes qu'on devrait retrouver à Tahiti. Et c'est l'objectif qu'on a fixé à l'ensemble des disciplines.
Un Mac des Sports à retrouver dans son intégralité en podcast sur notre site internet. Les mini-jeux du Pacifique sont prévus, je le rappelle, à Palau du 29 juin au 7 juillet prochain. Il est 18h15, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Voyons les couleurs du ciel avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages seront nombreux. De fortes averses concerneront localement les loyautés de l'est et le sud de la Grande Terre. Ailleurs, les averses seront plus éparses et localement modérées. Sur Marais et l'île des Pins, le vent de secteur nord-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il sera de secteur ouest entre 5 et 10 nœuds, localement variable faible. Les températures minimales seront élevées entre 23 et 25 degrés. Demain matin, le temps restera instable et souvent très nuageux. Des éclairs éclaircies passeront ici et là. Le sud-est et localement les loyautés conserveront des averses plus fréquentes et parfois fortes. Sur l'Ifou, Marais, l'île des Pins et la pointe sud-est de la Grande Terre, le vent soufflera de secteur nord-est entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, le vent sera variable faible ou de secteur ouest de 5 à 10 nœuds, Léana.